Thomas Speer, qui est professeur de français à Lehman College, n'est-ce pas,
Graduate Center, ouais.
À New York, a déjà eu l'occasion en atelier de nous présenter son site Il en Île. Beaucoup d'entre nous l'ont vu, d'autres le connaissent par leur navigation. Vous avez vu qu'Étienne Brunet, hier, était tombé dessus.
Non, là, c'était un autre site. Ça, c'est les CV, là.
Oui, c'était sur celui-ci, hein, et nous l'avait présenté sans savoir que son auteur était avec nous, ce qui confirme que tous ceux qui comptent dans l'Internet littéraire francophone sont bien parmi nous ici à Cerisy. Donc, va nous présenter une réflexion sur les archives littéraires. Puisqu'il gère, et je pense que c'est de ça surtout qu'il va parler, il gère une archive qui est très importante et dont on va simplement parler très rapidement sur la littérature francophone, et va nous parler de cette expérience de gestion d'un site qui présente des documents qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui sont des documents très importants pour cette partie de l'histoire littéraire. Donc je te donne la parole.
D'accord, merci Michel. Et puis, comme d'autres, je voudrais quand même bien remercier Patrick Robola d'avoir organisé ce colloque, la Cerisy. C'est très agréable de rencontrer beaucoup de personnes qu'on connaissait virtuellement, parfois depuis une dizaine d'années, de belles rencontres en personne. Et puis, l'autre soir, j'étais pas enregistré, il paraît qu'on m'enregistre maintenant, donc je vais essayer de faire un peu plus attention à ma langue. J'ai fait quand même une thèse sur Louis-Ferdinand Céline et j'ai quand même une langue assez verte, donc excusez-moi si je dévie dans une langue un peu non académique. Et puis j'ai un texte ici, je crois que beaucoup de gens, ils ont fait des présentations très démonstratives, je vais essayer de faire un peu ça aussi. Très peu de gens ici parlent de leurs travaux et recherches personnelles. Là, je voulais juste vous signaler, parce que je suis quand même certain militant de cette ignorance du monde francophone des Français. Et j'ai fait un texte il y a 2-3 ans chez Cartella, un collectif d'essais à la première personne qui s'appelle La culture française vue d'ici d'ailleurs. Bernard Pivot m'a invité sur son émission Double Jeu il y a un an. J'ai eu beaucoup de succès avec ce texte-là qui la quatrième de couverture, vous avez là la phrase qui lui a plu. Comment expliquer que Paris n'est pas le nombril du monde pour tous les francophones? C'est un peu le monde dans lequel je vis. Je voulais quand même aujourd'hui vous présenter plusieurs choses. Je vais commencer avec une présentation beaucoup plus orale, qui n'a rien à voir avec ce que vous allez voir sur l'écran. Je vais m'occuper de l'écran tout à l'heure. Et dans la considération sur les numérisations des savoirs, on est souvent tenté par le dernier logiciel ou le nouveau gadget électronique qui changerait notre façon de lire et de transmettre les données. Le papier électronique, le nouveau format haute définition DVD, la dernière puce plus petite et puissante, on nous promet mont et merveille. Les résistants aux avancées actuelles et à venir sont traités de ludites. À peine est-on habitué à la dernière version d'un traitement de texte ou d'un fleurteur de page web qu'il faut prendre une mise à jour, augmenter la mémoire de son disque dur, changer le système d'opération, puisqu'il n'y a plus d'aide technique pour une vieille version de son logiciel ou de son Windows. On gagne certes du temps, on peut faire du couper-coller, envoyer notre manuscrit par courriel aux éditeurs et consulter les immenses archives en ligne. Mais avec le temps passé à maîtriser le dernier logiciel, on oublie parfois le plaisir technologique et pré-industriel du livre, de l'objet si facile à manier, prêter, sauvegarder. L'Internet que nous connaissons aujourd'hui, avec son interface graphique, est devenu une banque de données inimaginable il y a seulement 10 ans à son début. 10 ans n'est pas beaucoup de temps pour qu'un format puisse mourir, se stabiliser. L'Internet a déjà eu le temps de se commercialiser et je voudrais croire que ça commence à se démocratiser aussi. Réunis, nous, ici, autour d'une question de l'Internet littéraire francophone, nous faisons partie d'une élite ayant accès à ces données. L'électricité, les ordinateurs et les connexions à l'Internet sont à notre disposition. Les spécialistes de littérature s'inquiètent rarement des noms littéraires, comme si l'objet livre est la seule forme de transmission des narrations, légendes et fictions qui méritent étude. Les recherches et données récentes montrent à quel point le livre est peu prisé comme objet culturel ou de plaisir. Les clips vidéo, les émissions télévisées, les chansons attirent davantage l'attention des jeunes. Il y avait une étude qui a été publiée l'année dernière qui a fait beaucoup de bruit, en anglais Reading at Risk, a Survey of Literary Reading in America, qui montrait le déclin considérable de la lecture parmi les États-Unis, dont moins de la moitié aurait lu un seul livre de fiction en 2002. Ce n'est pas que la jeunesse des pays industrialisés devient analphabète, mais les sources principales de leurs informations et actualités ne sont pas tout de même, sont pas écrites. Abordant une question de l'Internet littéraire, il nous importe de mettre en question cet objet de consommation que peut être la littérature. Nous sommes de la génération pionnière de la littérature transmise par le réseau des réseaux, l'Internet. Les changements de format, les violations flagrantes de copyright, la mise en ligne des données provenant de tant de langues et de pays, nous avons vu une évolution très rapide de la capacité de transmission mondiale des données numérisées. Les avancées technologiques depuis les premiers courriels sans accent et le réseau non graphique des VAX et Gopher nous permettent d'imaginer les formats qui ne sont pas encore banalisés. La lecture audiophonique, les textes numérisés, les illustrations en vidéo et en trois dimensions, et je pense même aux possibilités de mettre des odeurs avec des textes. On n'y est pas encore. Il y a déjà de nombreux exemples de formats qui se mélangent ou se mélangent texte et images. Je ne sais pas si vous avez vu le livre de Lulu, qui était un CD-ROM magnifique, là, qui mettait un livre traditionnel avec des clics, interactivité, qui était un très bon exemple de ces possibilités. Mais il nous importe de prendre en considération le développement inégal de l'Internet en espace francophone. Les célébrations prévues pour l'année 2006, l'année de la francophonie, et je ne sais pas si vous avez vu le... je vais vous donner un peu parfois des... francophonie.fr, c'est les célébrations de l'année prochaine, nous offre un moment opportun pour prendre en compte l'espace francophone dans son ensemble. C'est fait exprès. C'est ça. Si vous voyez le site, vous verrez tout ce qui se passe avec le ministre de Chirac, avec tout ce qui se passera l'année 2006, c'est l'année de la francophonie. Le salon du livre, c'est ça. Et vous verrez les événements déjà là. Mais c'est ça le site.
Ouais. C'est FFF.
3F, oui, francophonie. Oui, il n'y a pas de faute, là. Comme la littérature en forme écrite est publiée en livre, la littérature francophone, lue, enseignée et distribuée à travers le monde, et surtout celle qui est publiée en Europe, en France, mais également en Belgique, en Suisse et au Québec. Dans la presse littéraire française, c'est-à-dire parisienne, les auteurs du Sud, et je mets le Sud entre parenthèses, francophones, c'est-à-dire les Antillais, Maghrébins, Africains, qui ne publient pas dans ce Nord, n'existent tout simplement pas. Il y a parfois des coéditions qui permettent aux maisons d'édition, entre guillemets, périphériques, de faire des coéditions. Moi, j'en connais pas mal avec l'Afrique subsaharienne, avec le Maghreb, avec le Québec, avec par exemple l'Amartin ou le Seuil. Mais la circulation du livre dans l'espace francophone est sinon principalement déterminée par des questions économiques qui empêchent la majorité des francophones, c'est-à-dire les habitants de l'Afrique, de participer pleinement à l'espace littéraire francophone. Avec l'arrivée de l'Internet, nous nous retrouvons avec les mêmes inégalités économiques et politiques. Soulignons d'abord l'importance du Québec et du Canada francophone dans le développement de l'Internet francophone. Il y a 10 ans, c'était le Minitel qui était à la norme en France, et à part quelques rares sources d'information comme Radio France Internationale et RFI, il y avait très peu de présence de la France sur Internet. Le Minitel avait l'avantage de son universalité, mais permettait trop au monopole de France Télécom de gagner tant d'argent. À part le bulletin téléphonique, presque tout était payant. La consultation du journal, la prise des billets, du train, le Minitel rose. Pendant les premières années, la résistance à l'Internet était flagrante en France. Il y avait non seulement le Minitel pour expliquer cela, mais les micro-ordinateurs, le prix des téléphones, tout ça était beaucoup trop cher en France. Ce qui n'était pas le cas au Canada. Mais c'était intéressant même pour les questions de langue. Là, moi, j'ai toujours utilisé l'exemple du mot courriel. Les Français refusent ce mot courriel. Ils utilisent mail. Moi, je n'aime pas. Pour moi, e-mail en français, ça, écrit, ça fait email. Mais l'Académie française veut mail, M accent aigu, L. Mais les Québécois utilisaient courriel avant que les Français sachent ce que c'est. Mais nous nous réunissons ici autour des questions de littérature francophone mise en ligne. Il est également important de prendre en considération des mesures pour la prochaine décennie, par exemple, qui pourront permettre à une plus grande population francophone d'y avoir accès. Je pense aux exemples du passé, à l'époque où le gouvernement français assurait la disponibilité universelle des terminaux Minitel et le gouvernement provincial de Québec offrait aux résidents immigrés des fonds pour que toutes les familles puissent se fournir en micro-ordinateur. Ma question, c'est où sont les fonds et projets pour faciliter l'accès aux banques de données aux populations des pays souvent dits du Sud. Nos préoccupations se prétendent littéraires, mais il est difficile de ne pas prendre en compte d'autres réalités économiques et politiques. Depuis la chute du mur de Berlin, les lois du free market economy encouragent la privatisation des compagnies de télécommunications nationales, souvent inefficaces, certes, mais à vocation de service universel. À leur place, nous trouvons des compagnies multinationales qui n'offrent l'accès aux outils de cette nouvelle économie postcoloniale qu'aux happy few, dans les mots de Stendhal. Prélevé de l'élite consommatrice, moins que du contribuable, les devises du pays agrandissent ainsi les comptes en banque à l'étranger des compagnies et de quelques figurants au pouvoir. Des grandes villes francophones, et j'en ai mentionné hier, par exemple Kinshasa, c'est la seule ville qui rivalise avec Paris, avec 9 millions d'habitants. Par exemple, de ces 9 millions de Quinois, est-ce que vous vous êtes demandé combien sont allés à l'école? Combien possèdent des livres imprimés en français? Combien ont utilisé un ordinateur? Et quant aux autres grandes villes francophones, je pense aux grandes villes, c'est-à-dire Abidjan, Tananarive, Port-au-Prince, je pense à ça, c'est-à-dire qui est-ce qui a accès à l'Internet. Par définition, une personne nostalgique des valeurs de l'école coloniale du 19e siècle à la Jules Ferry serait réactionnaire. Et c'est-à-dire, si moi je parle d'une école obligatoire, laïque et universelle, je serais moi-même taxé de réac. Et c'est quelque chose que je trouve disparaissant dans le monde, c'est-à-dire l'école universelle et laïque, c'est de moins en moins ce que nous voyons. Enfin bon, passons un petit peu plus à une partie démonstrative. Pour vous dire que j'ai commencé mes aventures en ligne avec un site de ressources internet francophones, vous voyez sur l'écran. En fait, si vous voulez facilement trouver des choses que j'ai, je vous recommande, et après vous faites des bookmarks, si vous faites sans les wgo.to/spear, vous trouverez une page que je vous montre, qui est une page personnelle, cette page-là qui donne, là il en est, là les ressources internet francophones, ici j'ai des liens pour des hypertextes, dont une page sur Duras, et j'ai des choses personnelles ici, et si ça vous intéresse, New York aussi. Mais donc cette page-là vous donnera très facilement tous les sites. Mais mon but avec ce premier site, c'était de mettre à la disposition de mes étudiants des sites. C'est-à-dire mes étudiants sont peut-être un tiers hispanophones, mais sinon ils sont de toutes les langues du monde, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'immigrés. Des ressources fiables et gratuites en ligne pour l'apprentissage de la langue et pour explorer en langue française la presse, pour se divertir et découvrir le monde francophone par pays, par région. Et vous verrez, soit vous utilisez le petit raccourci ici, j'ai des pages colloques, fun, le divertissement, les sports, musique, etc. Langue française, il y a beaucoup de pages de grammaire, je peux même vous montrer. La première partie, il y a beaucoup d'exercices fléchés souvent. Chez Jazé, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un très bon site là à Singapour, on s'en fout un petit peu de l'origine géographique de ces sites quand c'est utile pour les étudiants, les dictionnaires par exemple que vous connaissez, etc. Je reviens là, donc ça vous montre un petit peu le plan de ce site là. Littérature qu'on a vu hier, les musées, la presse, c'est une page très utilisée la page presse, et par exemple là en région Afrique, cette page là est la page la plus visitée de tout mon site, en fait de tous mes sites. Il y a eu des centaines de milliers de visites sur cette page-là, parce que la page Afrique francophone est en ligne avant l'Internet en France, et des gens depuis longtemps me demandent d'ajouter des liens, etc., pour connaître l'Afrique francophone, qui n'est pas ma spécialisation personnelle, mais il y a beaucoup de liens ici. Et ce qui est intéressant avec les compteurs de cette page-là, qui montrent tant de visites, C'est que les personnes qui viennent visiter ce site sont évidemment, en première partie, sont américains et européens. Mais pour l'Europe, par exemple, en ordre d'importance des visiteurs, c'est les Français, les Belges, des personnes du Royaume-Uni, des Allemands, les Suisses et les Italiens. Loin derrière ces pays riches, les trois seuls pays francophones de tous les continents africains qui viennent régulièrement sur ces pages sont en ordre le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Et c'est, je trouve que c'est assez intéressant de voir ces inégalités. C'est pas une question de qui est-ce qui a accès à Internet. Si aujourd'hui à Dakar comme à Tunis, le prix d'accès à l'Internet dans les cybercafés est abordable, ce n'est pas quand même une habitude généralisée qui permet à l'ensemble des francophones de lire en ligne. Quelque chose de plus pédagogique d'une certaine manière, mais qui a à voir avec l'emploi de l'Internet. Moi, j'aime bien tester les connaissances géographiques de mes étudiants, et une question que j'utilise tout le temps, c'est comment s'appelle la capitale du Canada. Et en général, ils peuvent jamais me le dire, même si on a une frontière de New York avec le Québec. Et au printemps cette année, c'était une question avec Pâques et la Pâques juive, etc., de savoir ce que c'est que l'équinoxe. Je leur dis, mais bon, demain vous allez venir me dire ce que c'est que l'équinoxe. Alors ils sont revenus et je dis, mais comment vous cherchez des informations pareilles? La première réponse, c'est Google. Et donc ma question, c'est de savoir, est-ce qu'ils savent ce que c'est la différence entre un moteur de recherche et un dictionnaire? Et est-ce qu'ils apprennent à distinguer entre les ressources commerciales, ludiques, personnelles ou erronées? Et c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est-à-dire faire un apprentissage de l'emploi de l'Internet. Je ne vais pas aller en détail, mais j'avais, peut-être pour la version écrite, qu'on verra plus tard, c'est des données sur des personnes qui s'interrogent sur ces questions de ce qu'on va mettre en ligne. Il y a de plus en plus d'articles qui disent que les étudiants ne veulent rien lire si le texte n'est pas disponible en ligne. Ils sont plus intéressés à aller voir des livres qui sont à la bibliothèque. Et il y avait un Howard Strauss qui a fait un article dans le Chronicle of Higher Education qui prétend que tous les professeurs doivent maîtriser ces nouvelles technologies de multimédia. Ils doivent savoir créer des pages web et mettre toute la documentation de leurs cours en ligne. Nous, on fait beaucoup de... On est poussé énormément à faire l'éducation à distance et tout mettre en ligne. Je fais partie de ces gens qui interrogent sur ces questions-là. On en a parlé déjà l'autre jour aussi de ces questions du fait que dans le Texas, ils sont en train maintenant d'éliminer des étagères dans les bibliothèques pour les remplacer par des terminaux. Et on a déjà eu cette présentation sur les bibliothèques aussi. Je crois que le rôle du bibliothécaire change aussi énormément. David Godin, qui est un éditeur aux États-Unis, qui a publié en fait pas mal de textes en traduction du français, il y avait un colloque en 83 sur la question du livre, et il était en train de faire la défense du livre, qui avait dit que depuis 500 ans, il y avait beaucoup de choses qui ont menacé le livre, et puis, il paraît que même à un moment donné, ils ont dit que la bicyclette allait contrecarrer le fait que les gens veulent lire. Mais lui, c'est pas ça la question, parce qu'il parle pourquoi le livre reste une très bonne vieille technologie. Parce que pour lui, la question, c'est qu'on ne devrait pas nous inquiéter de cette question du livre quand on voit grandir toute une génération qui sait à peine lire. C'est plutôt ça la question. Donc c'est pas forcément la forme physique qui n'est pas importante, mais la question de l'alphabétisation et du pouvoir d'achat, déjà. Le digital divide, si vous voulez. Je peux juste vous recommander, parce que je veux aller quand même vous présenter un peu des sites. Il y a un bibliothécaire américain qui s'appelle John Lubens, qui a fait des études que je vous recommande de voir, lubans.org. Ce qui m'avait fasciné dans son étude « Key findings on Internet use among students », d'abord, c'était l'écart énorme entre les filles et les garçons, non seulement avec l'emploi, mais avec leur façon de se vanter de ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est pas vraiment mon propos ici, mais c'est que son enquête de 99 montre quand même que déjà il y a 6 ans, les étudiants pensaient de toute façon que tous les livres doivent être disponibles sur le web. Et là, je crois qu'on a parlé suffisamment ici de quelques grandes banques de données qui sont en ligne, comme ABU, ABU, Artful, la bibliothèque de Lisieux. Mais comme la numérisation totale du corpus grec classique, on sait que nos études changent depuis que nous avons accès à tout ce qui est numérisé. Mais ce qui fait que, d'une certaine manière, on arrive au fait qu'on sait que les corpus classiques vont être disponibles en ligne. Et donc avec ça, les développements et changements en technologie, ils nous apportent aussi de prendre en considération les normes souhaitées, existantes et dominantes, pour mieux reconnaître la fiabilité des informations et des textes que l'on trouve en ligne, et pour réduire les problèmes de plagiat et de reproduction. Pour les livres imprimés d'abord sur format papier, on trouve des normes très différentes pour indiquer par exemple les numéros de page du texte original. Rares sont les sites où les personnes qui numérisent de vieux textes mettent en ligne à la fois une copie graphique et une copie textuelle, qui permet quand même la recherche par mots-clés. Modern Languages Association of America, c'est basé aux États-Unis, il y a 40 000 membres. Ils essaient de faire des normes pour, non seulement pour les normes bibliographiques, mais les normes pour des sites web. Par exemple, en disant que des gens doivent numériser les paragraphes, ceci, cela. Mais ça ne veut pas dire que des gens suivent ces normes. Il n'y a aucune norme de format de revue, par exemple, de livre mis en ligne. À CUNY, nous sommes une institution publique et au début, quand on a commencé à mettre des pages en ligne, on nous donnait beaucoup d'informations, ce qu'il fallait faire pour, par exemple, on a entendu parler ici de Florilette, le site de la Poste, mais nous aussi, on a toujours dit qu'il faut avoir le texte alternatif pour des graphiques, etc., pour les malvoyants qui ont des possibilités d'écouter les sites. À CUNY, on est malheureusement très Microsoft, moi j'ai horreur de Microsoft, dans le Graduate Center, qui est un des campus où je travaille, ils ont que front page. Et les gens, ça c'est, comme je dis, il n'y a rien de plus banal que de voir des sites qui sont extrêmement mal conçus, qui ne marchent pas sous les plateformes, que ce soit Linux, Microsoft, Macintosh. Et je crois que ça, c'est encore une question d'accès, que des gens ne pensent pas à leur public et aux droits. Donc, nous sommes parmi les gens qui ont appris à lire autrement. Nous avons ces connexions avec d'autres lecteurs francophones, des textes multimédia, interactifs, des blogs. J'ai envie d'aller assez vite pour pouvoir parler de mon site, mais si la connexion marchait ce matin, je vous aurais montré quelques textes qui étaient pour moi assez indicateurs des premiers textes interactifs et littéraires à la limite. Et je n'ai pas testé cette semaine pour voir si ça marche toujours, mais c'est un texte, un site que j'aime beaucoup, c'est une cigarette, vous cliquez dessus, ça fume, il y a un joli... J'espère que ça marche toujours. Si ça marche pas, le titre de ce texte-là, ça s'appelle « Ça dure un peu ». Il est en ligne depuis longtemps. Pour trouver beaucoup de ces sites-là, je vous recommande le centre multimédia du Musée de l'art contemporain à Montréal. Ils ont de très bons liens vers des sites de création artistique. Nous avons le web art aussi. Et l'autre aussi que j'adore, c'est yafool.com. Et je ne sais pas si vous connaissez. Et là, yafool, il faut prendre un mot de passe parce que c'est évidemment un site très adulte. Mais j'aime beaucoup montrer ça marche très bien avec des jeunes étudiants. Les Nanas, qui est une sorte de bande dessinée, c'est très bien pour l'argot, pour apprendre le français. Et puis, l'interactivité de Manara, je ne sais pas si vous connaissez les dessinateurs de bande dessinée Manara, mais Yafool, c'est mis en forme web, et je trouve que c'est excellent la forme. Donc, ça nous permet de penser à concevoir la lecture, la création de textes de façon très différente, et je voulais juste en parler de quelques exemples. Et donc ça, c'est ma partie beaucoup plus théorique. Et là, je crois que en deuxième partie, il vaut mieux que je vous parle un petit peu de Elon Musk. Petite parenthèse, comme j'ai dit l'autre soir, donc je le dirai très en vitesse aujourd'hui, les mots, quand vous cherchez sur Google certains mots qui marchent pour me trouver, je dis que trois mots m'appartiennent sur Internet. L'un, c'est Afrique. Si vous cherchez Afrique sur google.com ou google.ca, en général, ma page Afrique francophone que je vous ai montrée apparaît au premier ou deuxième position sur 8 millions de réponses, parce que c'est une page en ligne depuis très longtemps. Un autre mot qui m'appartient d'une certaine manière, c'est le mot « île », que vous faites « île » ou « île », vous trouvez très facilement le site « île ». Et l'autre mot dont je suis très fier, c'est « pute ». J'ai ce texte que j'ai mis en ligne il y a presque 10 ans maintenant. C'est un texte en fait en anglais sur Marguerite Duras. Il y avait une cyberconférence sur elle, et c'était quand j'ai appris au début comment faire de l'hypertexte, et je me suis bien amusé à faire un texte sur Marguerite Duras. Et puisque les sites pornographiques changent souvent de place, ce site-là est en ligne depuis très longtemps, et si vous cliquez pute, vous allez trouver mon texte sur Marguerite Duras. Voilà. Sinon, donc, j'arrive sur Ilani, et je voulais parler un petit peu de comment ça marche de façon collaboratrice. J'ai beaucoup de gens dans le monde qui participent à ce site. J'avais envie de vous montrer un petit peu comment le site est organisé. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais des démonstrations de multimédia, comment utiliser le multimédia dans les salles de classe. Et puis maintenant avec ce site web, j'utilise beaucoup pour montrer comment on peut utiliser ça en salle de classe selon les besoins, parce qu'il y en a qui sont français langue étrangère, il y en a qui sont études autobiographiques, études Guadeloupe ou Haïti, études de régions spécifiques, mais il y a des façons différentes, et je crois que la meilleure chose à vous dire, c'est je vous encourage à prendre le temps à découvrir ce site vous-même. Très brièvement, il est divisé par les lots, et vous avez toujours sur toutes les pages Atlantique, Caraïbes, Antilles, Méditerranée, Océan Indien et Pacifique, qui vous amène vers des régions. Et pour chaque région, il y a des pages qui vous donnent des parties annuaire, culture, patrimoine, voyage, ce qui donne, encore une fois, c'est toujours le but de pédagogue et encyclopédique d'une certaine manière, parce que mon site est surtout littéraire. Mais en même temps, si mes étudiants lisent des textes de Madagascar ou de Guadeloupe ou de Nouvelle-Calédonie et ils veulent savoir cet arbre-là dont on parle, ce plat-là, ça ressemble à quoi, j'ai mis sur ce site, sur chaque région, il y a des recettes, il y a des arts plastiques, il y a le philatélie, il y a musique, il y a des sites touristiques, ce sont des liens externes. Souvent, des sites touristiques donnent des belles photos, donnent des cartes. Et donc, chaque région, il y a des liens comme ça. Annuaire, presse aussi. Et selon... certaines rubriques sont accessibles déjà depuis la première page. J'ai une page pour les maisons d'édition Librairie parce que beaucoup de ces petites maisons de la Polynésie française, de Haïti, sont pas très faciles d'accès. Vous n'allez jamais les trouver sur Amazon.fr ou chapitre.com. Donc vous allez avoir accès par région à des liens directs vers des éditeurs et librairies qui ont souvent des librairies de vente en ligne ou du moins un courriel où vous pouvez leur écrire en disant « Je cherche un livre d'un tel et tel que j'ai trouvé en ligne ». Et ça aussi c'est pour faciliter, c'est pas une publicité, et comme j'ai dit ici, mon site est 100% sans publicité. J'ai horreur de ça, j'essaie d'y tenir. Les questions financières, peut-être un jour je vais être obligé d'y aller, mais pour l'instant je travaille sans. Et puis il y a une page aussi à partir de la page de base pour la presse, parce que là aussi si vous voulez savoir les dernières nouveautés des Comores, d'Haïti, ailleurs, j'ai des liens directs. Par exemple, vous cliquez Haïti et vous avez la presse écrite haïtienne qui est assez considérable. Il y a également énormément de radios haïtiennes qui sont en ligne, et c'est-à-dire ce sont des liens externes, mais pour la découverte de ces îles, je trouve que c'est important que les gens puissent avoir accès aux informations quotidiennes qui viennent directement des îles. Donc là, je vous laisse découvrir. Il y a également une chronologie antillaise qui a été établie en collaboration avec d'autres collègues. Nous sommes littéraires, mais quand vous faites de la littérature, c'est un peu difficile de ne pas entrer dans les détails d'histoire, les événements de... C'est un peu difficile à connaître l'Occident si vous ne connaissez pas l'histoire de la révolution haïtienne, qui est un élément clé de l'histoire de l'Occident. Les Français même savent très peu sur leur ancienne colonie. Il y a aussi, si vous voulez avoir dedans des liens, je n'ai pas vraiment le temps de le faire aujourd'hui, mais beaucoup de gens parlent de ce site, j'ai créé des sites partenaires. Norbert Dodil cet après-midi va parler de son site de littérature réunionnaise. Nous avons un partenariat, il va montrer comment ça marche son site, et mon site est évidemment différent, mais la littérature réunionnaise fait partie, moi j'essaie de couvrir les îles, il y a des sites spécialisés comme cela. Par exemple, avec Haïti Tribune, qui est un bimensuel qui a commencé l'année dernière, il tire dans chaque numéro une page entière qui est un dossier d'un auteur haïtien du site. Il y a un autre aussi, Windows on Haiti, donc voilà, vous voyez le site de littérature réunionnaise. Windows on Haiti aussi, on est partenaire. Et puis l'année dernière, c'est votre ministre de la Culture, Renaud Donadieu de Vabre, qui m'a présenté ce trophée de la langue française pour ce site web. C'est-à-dire, donc je mets ici un peu des liens des autres qui ont fait des liens vers mon site. Je voulais vous montrer aussi quand même, pour vous donner une idée, c'est-à-dire à partir de la page de base, vous avez, je vais revenir là, un lien vers les textes en ligne par genre. Si vous faites un cours sur la nouvelle, ou vous êtes seulement dans la poésie contemporaine, les textes qui sont disponibles, parce que chaque dossier d'auteur, je vais vous montrer des exemples, mais il y a la présentation de l'auteur, mais il y a des pages annexes. Et les pages annexes sont souvent des extraits, des nouvelles en entier, des poèmes lus. Et donc vous pouvez avoir accès par genre, si vous ne voulez pas vous rester dans des liens géographiques, donc nouvelles et contes, poésie, récits, romans. J'ai même des romans en entier là-dessus, texte pour la jeunesse et théâtre. Donc là, c'est par genre, et vous avez également un index pour juste la partie audio, qui est une partie assez unique de ce site. Il y a énormément de textes lus par les auteurs, parfois par d'autres auteurs. Et donc là, je les mets même avec la durée du temps, parce que souvent, il y a des contraintes dans des cours. Donc vous avez un index qui vous donne une idée de ce que j'ai... par audio. Je voulais vous donner quand même, je vous donne un exemple d'un auteur. Donc il y a de toute façon toujours, quand vous voyez le menu, vous avez toujours le menu sur toutes les pages, et il y a toujours un... Bon, ça marche pas quand je suis pas en ligne. Je vais essayer de le trouver autrement. Il y a la table des matières. Qui est la table de matière de tout le site. Mais, et ça facilite, et puis évidemment, moteur de recherche Google. J'ai également dans la partie littéraire un index littéraire qui est beaucoup plus détaillé pour les auteurs en donnant les extraits qui sont là. Et quand on commençait pour faire un test son, je vous donne Georges Castra, un des poètes les plus connus contemporains d'Haïti, pour vous donner un exemple d'un dossier d'auteur. Un dossier d'auteur pour ce site comprend le suivant. Une photo, une biographie, les biographies varient, elles sont très courtes ou très longues selon. J'essaie toujours d'avoir la date de naissance et le lien insulaire. C'est un site insulaire, il y a des personnes qui ne sont pas nées aux îles, mais ils ont des raisons différentes d'avoir une appartenance insulaire, donc j'essaie d'incorporer cela. Et j'essaie dans la partie biographique, selon l'auteur ou les personnes qui connaissent, parce qu'évidemment beaucoup sont des auteurs morts, un peu la formation, un peu la préoccupation, un peu l'importance de l'auteur, et ça varie énormément. Ensuite, il y a une bibliographie très complète. Je suis très pointilleux pour les dates, le nom de la maison d'édition. Là, le problème avec Haïti, bon, ça c'est Beaucoup d'auteurs haïtiens, comme Polynésien et d'autres, publient à compte d'auteur. Quand j'ai des informations, je les publie. Là, c'est son nom, parfois. Par rubrique, selon l'auteur. Après la bibliographie des œuvres de l'auteur, j'ai toujours une partie critique sur l'auteur. Comme ça, si vous faites des recherches, vous allez pouvoir trouver l'article dans une revue avec les numéros de page. Comme ça, vous pouvez demander à votre bibliothécaire qui, si c'est une revue assez difficile à trouver, ils vont savoir quelle page photocopier ou vous envoyer en PDF par email ou autre pour faire des recherches très approfondies. Traduction, si ça existe. Et puis les liens, je mets toujours en bas de page. Les liens, celui-là, c'est seulement des liens internes, mais il y a parfois des liens externes. Là, c'est des textes de Georges Castra que j'ai mis en ligne. Et j'ai énormément de photos qui viennent des archives. Et là, ce que vous avez entendu tout à l'heure, je vais juste vous jouer un petit peu. J'essaie évidemment de me concentrer sur des auteurs francophones. Pour des Haïtiens, il y a souvent évidemment des auteurs de langue créole. Les textes sont là pour suivre s'il y a des problèmes de compréhension. Ça, c'est pas Georges Castra, évidemment, c'est Lodi Auguste qui chante. Vous connaissez peut-être Jacques-Stéphane Alexis, là, c'est lui avec Castra. Mais. Castra, il écrit surtout en créole, il a beaucoup de textes en français aussi, je peux trouver des choses. Mais ça vous donne un exemple d'un dossier de base et comment les auteurs sont présentés. Ça va, là j'ai un peu de temps, ce qui me permet de montrer quelques exemples d'auteurs. Ça, si vous voulez, ça c'est une page qui n'est pas publique, mais ça vous donne une idée de la taille de ma base de données. Ça change tout le temps. Là, pour l'instant, il y a 150 et quelques auteurs. C'est un projet immense et ce qui me bouffe tout le temps que j'ai, mon temps libre. Mais je ne sais pas. Si je commence, par exemple, avec le Pacifique, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est la partie la plus nouvelle. Hier soir, il y avait une question, l'autre soir, pourquoi il y en a des noms qui ne sont pas encore avec un lien. On essaie d'établir un index des auteurs les plus importants qui devraient figurer sur le site. Et à fur et à mesure que les données sont reçues, je les mets en ligne. Mais il y a une femme dramaturge, Anne Billon, qui a travaillé avec moi et avec des auteurs de là-bas, de la Nouvelle-Calédonie, à établir des bases de données sur des auteurs de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, pour beaucoup d'entre eux, donc il y a des extraits, vous pouvez lire un peu le... j'ai pas d'audio pour Ambient, mais je suis reconnaissant au travail. Ça m'arrive souvent comme ça, d'avoir des spécialistes qui m'aident à établir des bases. Et donc, elle m'a beaucoup aidé à mettre en ligne les dossiers d'auteurs de la Nouvelle-Calédonie, dont Bernard Berger, qui était mon premier auteur de bande dessinée, et comme ça j'ai des planches. C'est-à-dire, de toute façon, il y a toutes sortes d'auteurs. J'avais envie, je les ai montrés l'autre soir, mais ça vaut la peine de revoir Dévé Gorodé, qui est auteur très apprécié. Et comme j'ai expliqué l'autre soir, c'est le genre d'auteur qu'on ne veut pas enseigner dans la République française parce que c'est quelqu'un qui réclame l'indépendance de son pays. Une grande gauchiste très respectée, elle est assez dans la politique. Elle est également, j'essaie de voir le nom de la langue, elle enseigne la langue, il y a beaucoup de langues de la Nouvelle-Calédonie. Mais elle est prof aussi, voilà, le païsi, la langue de la Nouvelle-Calédonie et de ses îles à elle. Pierre Gopé, qui est un exemple aussi d'un auteur de la Nouvelle-Calédonie, il fait du théâtre, qui montre souvent comment ces îles très loin de l'Europe sont francophones, mais leur lien avec le monde francophone ne passe pas forcément par la France. Et lui, qui n'avait jamais quitté son archipel de loyauté, il voyageait peu à l'extérieur de là. C'était quand il avait vu un groupe de l'Afrique de l'Ouest, Suleiman Kolé, il a vu comment il pourrait lui-même revendiquer sa culture kanak par le théâtre. Et donc vous avez un théâtre francophone, mais qui n'est pas très connu ici en Europe. Et je suis très content de pouvoir présenter ces auteurs assez connus là-bas. Je vous laisse découvrir. Ça, c'est juste une présentation vite faite de quelques auteurs qui font partie de la base de données de la Nouvelle-Calédonie. La Polynésie, c'était à peu près pareil. J'avais un chercheur, Patrick Sultan, qui est maintenant à la Martinique, puis qui était professeur à l'Université de la Polynésie française, qui a fait travailler ses étudiants sur des dossiers d'auteurs de la Polynésie. Des auteurs que je ne connais pas personnellement, vous verrez, il y a beaucoup d'extraits. Par la suite, je me suis mise à les connaître. Chantal Spitz, que je vous recommande, on a des super textes d'elle en ligne. Il était question, même dans le titre de notre colloque ici, littérature, internet littéraire francophone, de parler du monde francophone. Moi, j'ai horreur du mot francophonie, c'est un mot colonialiste. Et je vous recommande le texte de Chantal Spitz. Si vous êtes des personnes qui aiment ce mot, vous verrez un peu ce que pense une polynésienne de la francophonie. Elle a des très bons textes aussi sur Paul Gauguin. Je vous recommande les lectures de Chantal Spitz. Une autre, c'est Flora Devantine. Il y a un groupe d'auteurs, et là j'expliquais l'autre soir, mais je répète pour ceux qui n'étaient pas là, qui ont une revue qui s'appelle Littérature Maori. Et Flora Devantine, qui est directrice de cette revue, et j'essaie de les encourager à faire un site web, de mettre la revue en ligne, parce que je crois que ça nous parle tous beaucoup, déjà pour définir la littérature. Qu'est-ce que c'est que la littérature? Et là-bas, la littérature, c'est le chant, c'est la littérature écrite, c'est le tatouage, c'est la poésie, et nous avons des façons différentes de concevoir ce que nous considérons déjà comme littérature. Et je crois que l'Internet aussi nous donne d'autres possibilités. Il y a également des questions très intéressantes de bilinguisme dans ces îles. Jimmy Lee, qui est un auteur d'origine chinoise de la Polynésie, et ça c'était un lien que j'avais mentionné l'autre jour aussi. Si je reviens vers... je vais vous montrer un auteur haïtien très âgé que j'ai rencontré, j'ai heureusement enregistré avant qu'il ne soit mort. René Bélance, qui est un poète très classique, vous voulez, il a une voix sombre, je pourrais même juste sans les mettre, lequel j'aime là, Agave, juste pour sans mettre un...
Je n'ai plus d'amour à glaner sur le dos des morts de chauve, juste un peu d'espoir.
C'est-à-dire toujours vous avez les...
Même un chant d'apocalypse.
Vous avez toujours le texte avec des enregistrements, mais c'est-à-dire pour parler de René Bélance, j'avais jamais entendu. Je m'y lis, son dossier était mis en ligne par ses étudiants de la Polynésie, et un jour je reçois un courriel de Jimmy Lee, comment il était content de trouver en ligne un dossier sur son ancien professeur René Bélance. Et c'était René Bélance, un haïtien qui enseignait à un moment donné dans l'état de Washington aux États-Unis, et Jimmy Lee, d'origine chinoise de la Polynésie, il était étudiant dans les années 60, et je les ai mis en contact peu de temps avant que René Bélance meure, et Jimmy Lee a fait une sorte de résumé de ça. Ils étaient très contents de se retrouver par le biais de ce site. Donc ça, c'était juste une petite anecdote sur Jimmy Lee. Jean-Marc Pambrun aussi, qui est assez connu par ceux qui font lettres francophones. Encore une fois, il faut que vous preniez le temps à lire la présentation de l'auteur. Je vous recommande aussi d'aller voir son blog. Je trouve que c'est un très bon exemple d'une façon des auteurs de se présenter en ligne avec le feedback qu'ils ont avec leur lecteur. Je trouve que c'est très bien fait ce qu'il fait. Voilà, ça suffit juste pour une petite présentation des auteurs du Pacifique. L'océan Indien, il y a des choses très très différentes à présenter ici. Selon les questions politiques, économiques des îles, je travaille beaucoup à agrandir cette partie du site. Je compte retourner à La Réunion et à Maurice en janvier. Les Mauriciens m'en voulaient parce que j'avais trop peu d'auteurs en ligne. Les Comores, c'est une autre histoire aussi, parce que vous savez que l'archipel des Comores a été divisé par la France depuis 1975. Officiellement, c'est illégal, mais mon ami qui est ambassadeur des Comores aux Nations Unies, ils n'ont pas le droit, parce que la France est là au Conseil de sécurité, de présenter... mais c'est-à-dire l'île de Mayotte a été séparée des Comores. Et donc il y a des écarts économiques énormes. Il n'y a pas tant que ça d'auteurs, mais je suis en train de commencer cette série d'auteurs et moi je refuse de diviser l'archipel. Pour moi les Comores ce sont des Comores, c'est la même langue, c'est la même réalité. Madagascar, il y a des problèmes économiques comme vous le savez, mais je travaille avec des spécialistes là-bas, on essaie d'avancer cela. Esther Nirina, la poétesse, si vous connaissez, c'est une grande poète de Madagascar, elle est morte il y a juste un an et on a enfin reçu une photo, on est en train de travailler là-dessus. Jacques Ramin Mamjar qui est mort cette année, cette page-là a été très plagiée au moment de sa mort. Les gens se gênent pas là, de toute façon. Magali Compaon-Bernard, elle a trouvé son texte reproduit dans un quotidien malgache, etc. Mais donc un grand chantre de la négritude, je ne sais pas si vous connaissez sa poésie, il a passé quand même, une bonne dizaine d'années dans les tôles de la France. Et si vous avez vu la nécrologie dans Le Monde, c'est comme si François Mitterrand l'avait libéré. Ils n'ont pas parlé du fait qu'il était emprisonné pour des raisons absolument stupides. Mais bon, en France métropolitaine, c'est toujours Coco Corico, vive la France. Mais de Madagascar, vous voyez ça vraiment très différemment. Jean-Luc Ramaneman, j'ai joué son extrait l'autre soir, qui est assez sympathique. C'est un jeune auteur, très dynamique. Que je vous recommande à voir.
Sans doute, j'ai pas de jeu ici.
Je sais, donc pour ça, je suis en train de travailler sur batterie. Mais pourvu que ça reste branché, c'est ça là. Pourvu que ça reste allumé. Hein. Ouais, c'est. Michel Rakotson, qui est auteur malgache, j'ai adoré son roman La Lane. Je ne sais pas si vous connaissez son œuvre. Je vous recommande. Donc, je vous dis que la partie de malgache va être. C'est bon là, Patrick. Ouais. Maurice, Shinaz Patel a eu pas mal de presse cette année avec. Son dernier livre sur les Chagos, si vous ne connaissez pas, je crois que j'ai mis des liens quand même sur ce roman, sur les Chagos. Et des gens m'ont demandé de réutiliser l'extrait audio qui est là. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontré, mais je l'ai lu par la suite. Elle publie aux éditions de l'Olivier à Paris. Très très fort. Hein. Encore, ce n'est pas des gens d'auteurs que vous allez trouver dans Libération ou Le Monde, mais ce sont des auteurs vraiment à découvrir. Anana Devi peut-être est plus connue. David Rachamé, qui est militant de la langue créole mauricienne, et il a son site à lui, Bouquier Banané, si vous voulez lire. Il a traduit Shakespeare en mauricien, mais il vous aide à comprendre ses propres textes. Un auteur très important, dramaturge mauricien. Il y a d'autres qui viennent, là je pourrais vous montrer, à la limite ça vaut la peine de vous montrer comment ça marche. Quand je travaille à l'étranger avec tous mes collègues, pour vous donner une idée, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était Monique. Et ça, c'est un petit secret de clinique, si vous voulez savoir si vous pensez qu'un auteur devrait être là, vous n'avez qu'à mettre son nom de famille .html en remplaçant une page qui est là. Il y a énormément de brouillons qui sont pas en porte publique. Et ce que je fais, je travaille avec Lui, il vit à Pretoria, en Afrique du Sud. Je travaille avec une collègue qui est à moitié de l'année à Maurice et la moitié de l'année en Australie. Mais bon, l'Internet nous permet ça. Mais je travaille comme ça et on est en train de corriger des choses et on laisse en rouge. Et moi, j'attends encore la photo. On a beaucoup de choses à corriger avant que je ne mette le dossier d'Edouard Monique en ligne. Mais c'est une façon que nous avons de travailler sur Internet qui est vraiment géniale, de travailler à l'étranger. Monique me fascine aussi le fait qu'il connaît Haïti si bien, un auteur mauricien qui vit en Afrique du Sud. Et puis de l'île de la Réunion, Norbert Daudier pourra vous parler beaucoup plus de ses auteurs de là-bas. Mais pour vous montrer juste un peu la différence entre mon site et le sien, et on fait toujours des liens quand on en trouve le temps entre les deux sites pour avoir des bibliographies qui sont sur le site de la littérature réunionnaise. Monique Agenor, ce que j'aime présenter avec elle, et je pourrais peut-être vous jouer une minute parce que j'ai très envie de vous jouer Claude Pierre après, c'est la question de langue. Et quand les gens pensent...
Avant que tout petit monde ne cherche à faire son casier pour le sommeil de minuit, la seule et unique boutique de pâte aux cochons ouvrait ses portes aux habitués. Le mortel ennui de ces dimanches de farine de pluie jetait les habitants dans un engourdissement colapé d'ivrogne que seule l'approche bordelier du Fefray ramenait à la vie comme cabot sur une roche. Tiasson, le grand-père chinois du coin, avait toujours à la disposition de ses hôtes une vieille table bancale dans son arrière-boutique et les petits coups de sec circulaient au milieu de tout ça, des dominos et des casserolades.
Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est-à-dire ce que je voulais montrer un petit peu, c'est que parfois, les gens, quand il s'agit de créoles réunionnais, malgaches, langue de ces îles, le créole souvent aux Antilles, les gens pensent que c'est impossible à comprendre, mais je crois qu'avec l'audio, avec le texte devant vous, ça aide beaucoup à la compréhension, et ça dit, mais tiens, quand même, je pourrais lire Monique Agenor, elle m'effraie moi, parce que j'ai écouté un passage, je comprends, et les gens auront moins peur de connaître cette littérature. Boris Gamaleya, un peu l'aîné de la poésie réunionnaise, il y a un extrait sonore de lui, en fait deux, je suis allé chez lui. Cette photo-là a été reproduite sur son dernier recueil qui vient de sortir, audition Jean-Michel Place. Ils ont utilisé ma photo pour sur le site. Daniel Honoré, qui fait en langue créole et en français, surtout en créole réunionnais. Il y a des extraits de beaucoup de ces auteurs, je fais en vitesse, là, je vous laisse découvrir vous-même pour les écouter. Saint-Blanc, Jean-François Saint-Blanc, Vaxeler. En fait, pour un petit extrait de La Réunion, et je passe aux Antilles, Anne Chénette, qui vit à Saint-Pierre de La Réunion, elle m'a offert pas mal de textes et je voulais juste jouer un petit peu de Psychedelic Rap. Je vais étudier un de ces textes avec mes auteurs, mes étudiants cet automne. C'est quelqu'un que je trouve intéressant, là, Anne Chénette, et encore une fois, très
bien. Nous allons sur les dos pour plonger dans la terre, dans le ciel. Placé dans l'ancienne grève, il baisse la carte des étoiles. Il fait longtemps, il marche.
Je vais avancer un petit peu.
Mon arôme la source, pour des soifs, mon logis, pour des soifs, mon cœur, mon arôme de l'amour, l'amitié, mon arôme de la paix. La paix personne Désert. Le béton, là c'était crash, c'était crash de néon. Les rêves s'éboulent sur le béton. J'en ai marre des jours sans soleil et des nuits sans sommeil. Là c'était claque, là c'était crack, sous son masque, fixette, viol, drogue. La musique est faite de putain, hurle de satanés refrains. Là c'était délire, sans rire.
Bon, je ne peux vous faire que des petits extraits, mais c'est-à-dire, j'espère, comme je fais pour le site en entier, c'est une question d'attirer les gens vers. Ces littératures peut-être trop peu connues en France métropolitaine. Et mon temps est quand même assez limité, donc je n'ai pas vraiment le temps. Je vais juste dire brièvement, moi je travaille sur l'écriture antillaise caraïque depuis assez longtemps et c'est la partie du site le plus développée. Beaucoup de ces auteurs, et là encore je répète mille fois que j'ai pas le temps de vous présenter en détail, mais ce sont des auteurs, bon il y en a des très connus, Maryse Condé par exemple, je sais pas qu'est-ce qui vous connaissez, Gisèle Pinault sans doute, mais il y en a beaucoup moins connus. Gisèle Pinault, Maryse Condé, toutes les deux, j'ai des nouvelles en entier lues par les auteurs. Lucie Julia, une femme qui m'a émue, je sais pas si c'est un auteur intéressant dans le sens qu'elle parle à la fois du côté femme et du côté d'un passé historique de Guadeloupe qui était une île d'agriculture. Maintenant, c'est un île de béton touristique. D'un département d'outre-mer. Paul Niger, j'ai pensé à lui avec le crash de l'avion martiniquais avant-hier. Vous savez que lui, il est mort dans cet accident d'avion très suspect en 61 parmi les indépendantistes à l'époque de la guerre d'Algérie. Simon Schwartz-Barth, assez connu. Sylvienne Telchit, je vous recommande à voir pour... Elle est créoliste et il y a des textes d'elle en français et elle a fait par exemple une traduction de La Fontaine en créole. Vous pouvez l'écouter, lire. C'est pas comme si je fais l'enseignement du créole, mais ça peut encourager les gens à démystifier un peu cette langue. Myriam Bernard Vieira, Guadeloupéenne d'origine, mais qui vit au Sénégal depuis une quarantaine d'années. J'ai un très beau texte d'elle, lu pour le site, pour la connaître. Bon, Guadeloupe, je fais vite fait parce que le temps me presse. La Martinique aussi. Des auteurs très connus, des auteurs moins connus. Édouard Glissant, qui est mon collègue à CUNY. Chamoiseau Confiant, très connu. Mais vous avez des auteurs populaires comme Tony Delcham, Suzanne Dracius, etc. Georges Mauvois, une série de dramaturges. Vous avez le poète Monshuachi. De Monshuachi, il y a beaucoup de textes lus, des longs textes, des longs poèmes, pour vous faire connaître. Et puis, pour terminer, il faut que je boucle un petit peu. C'est pour vous présenter un petit peu Haïti, qui est mon dada personnel. Je voulais juste faire une remarque, c'est que j'ai des compteurs sur certaines pages et ce qui est très évident, j'avais noté que l'arrivée des gens de la France, qui sont les premiers à visiter le site, ils vont en premier lieu vers les Antilles et puis vers Martinique et Guadeloupe. Ce sont les pages les plus vues du site. Et les auteurs en ordre de popularité par les internautes, c'est Aimé Césaire, Maryse Condé, Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau. Et évidemment, ce sont tous les quatre des dom-toms. Et que les visites du site montrent très clairement que quand il s'agit de Haïti, les Français vont ailleurs. Quand les pages de Haïti, c'est le Canada et les États-Unis qui sont beaucoup plus intéressés par Haïti. Et c'est quelque chose que je trouve très très curieux, à quel point Haïti n'existe pas pour les Français. Et là, même pour les Antillais qui connaissent peu les Antillais, parce que les Haïtiens ne se disent pas Antillais. Antillais en général, c'est Martinique et Guadeloupe, ils sont de la Caraïbe. Anténor Firmin, qui était un des intellectuels extrêmement importants, un essayiste du 19e siècle, c'est rare de rencontrer des Guadeloupéens ou des Martiniquais qui connaissent. Quelqu'un qui a tellement lutté, c'est-à-dire Haïti, évidemment, était déjà indépendant pendant une cinquantaine d'années quand lui, il a écrit pour contrecarrer les théories racistes de Gobineau. Les auteurs du patrimoine Haïti, la base est tellement importante, vous voyez que j'ai une colonne alphabétique et par chronologie pour que les gens puissent situer un peu mieux les auteurs en ordre chronologique dans l'histoire. Justin Lérisson, qui est l'auteur de la forme haïtienne qui s'appelle la l'audience. La l'audience, c'est du mot français audience, ce sont des textes très courts qui était toujours oral. Et il y a toute une suite d'auteurs qui imitent cette forme-là maintenant. C'est une forme qui pourrait peut-être à la limite intéresser des gens, soit de la France, soit de la Polynésie ou autre, d'imiter ces nouvelles formes qui ne sont pas, si ce n'est pas une forme nouvelle, mais connaître ça des parties. Donc, je ne sais pas, Stéphane Alexis, qui est le père de Jacques Stéphane, mais qui était lui-même romancier. Calboire, je ne sais pas, j'ai énormément, il y a une grande tradition de poésie. Vous connaissez peut-être Jacques Roumain, qui est l'écrivain haïtien le plus connu. J'ai toute une section sur Roumain faite par Léon-François Hoffmann, qui a dirigé l'édition récente des œuvres complètes de Roumain. Avec Maurice Cassius, qui est un auteur de l'occupation américaine, ça me permet de parler, comme avec Monica Schneider ou d'autres, de ces questions de langue qui sont très intéressantes dans les îles d'une façon générale. Il y a des auteurs qui écrivent dans un français très classique, mais il y a des auteurs comme Maurice Cassius, quand vous voyez des textes, quand vous voyez le mélange de langues qui sont des mélanges ordinaires en Haïti. Les langues d'Haïti, c'est le créole et le français officiellement, mais l'espagnol et l'anglais sont très présents comme langue. Et vous verrez la façon que l'espagnol, le créole, etc. se mélangent dans ces textes. Je suis sûr qu'on va vouloir me couper. Donc, je n'ai pas le temps de jouer. Paulette Pujol-Oriol est très bonne romancière. J'ai un super texte lu d'elle. Je recommande son livre, Le Passage, son roman. Il y a un petit extrait en ligne. Franck Etienne. Il faut quand même que je joue une seconde de Franck Etienne. C'est un phénomène, Franck Etienne. Je le vois souvent, il vient à New York, moi je l'ai vu en Haïti. Fouki Foura, qui est une sorte de one-man show, qu'il a présenté à Avignon. Mais encore une fois, c'est cette question de langue que je trouve assez fascinante. Il est peintre aussi, Franck Etienne, un très bon peintre. Et il réclame le droit d'écrire en français. Parce qu'il y a des Haïtiens qui disent, mais il faut écrire en créole. Et lui, c'est le père, si vous lisez Confion et Chamezeau, le père des lettres créoles modernes. Il écrit en créole, mais il écrit en français aussi.
Les failles. Je gratte la peau des rêves. Je m'écorche la mémoire. J'écoute au fond de moi la musique de mes songes, le bruit de mes cauchemars, le tapage de mes mots, la grossesse du miroir, l'obésité de l'œuf, entre les nœuds du temps. La première fois que je suis passé par devant le grand conseil implacable, durant plus de 4 heures, j'ai été harcelé de questions saugrenues. Ça fait 20 ans. Et pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça fait déjà 20 ans. Cet absurde interrogatoire.
Bon, je coupe là. Je vous laisse à écouter vous-même. Je vais juste terminer. D'autres auteurs, j'aurais bien aimé vous jouer un petit peu de Claude Pierre. Je vous invite à découvrir un autre poète que j'estime beaucoup, Claude Pierre. Mais c'est d'ailleurs la base de données est assez énorme de Haïti. Donc évidemment, j'ai pas le temps de les montrer. Je voulais juste avant de terminer faire quelques petites remarques sur le copyright et le plagiat, parce qu'il en a été question à plusieurs reprises ici. Comme j'ai déjà dit, il y avait beaucoup de textes, des textes, des bibliographies, des photographies qui étaient plagiées de ce site. J'ai sur la page de base des remarques très très claires, comme il y a sur toutes les pages, tout droit réservé, qui renvoient vers les lois. Les lois ne sont pas si floues qu'on le dise. Il y a des photographes qui vivent de leur travail de photographie. Moi, j'ai le droit de mettre des photos en ligne. Je mets le nom du photographe, des textes et biographies. Et je voulais juste dire que les lois ne sont pas floues. Et on ne peut pas plagier comme ça sans y penser. Mon titre quand même était sur ces questions de numérisation et archivation des textes. Moi j'ai des grands projets en place maintenant à travailler avec la Bibliothèque Nationale d'Haïti et deux grandes archives qui sont catholiques, des frères là en Haïti. En ce moment, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en Haïti, mais avec les conditions économiques et politiques, les choses sont en train de pourrir carrément. Les journaux, il y a des journaux, il y a 100 ans, presque chaque ville en Haïti avait au moins un quotidien. Et il y avait des auteurs comme L'Hérisson et d'autres qui publiaient de façon quotidienne. Et avec une allumette, c'est fini. Et il y a carrément d'autres qui tombent en miettes. Et moi, je suis à la recherche en ce moment de fonds pour travailler sur ça avec des étudiants de l'Université d'État d'Haïti, à l'école normale là-bas. Et c'est un projet que j'ai, que je trouve extrêmement important de préserver ce patrimoine. Et puis, je crois que tout simplement en terminant, la majorité des lecteurs du monde des riches, que j'ai déjà évoqué, qui ont accès, c'est-à-dire ils peuvent manger tous les jours, ils ont accès à l'électricité, aux ordinateurs, à l'internet, et ils ont le temps de loisir pour la lecture. Ils vivent généralement dans une ignorance de la production littéraire des pays francophones non européens. Et s'il est possible d'évoquer notre patrimoine de francophones dont j'ai entendu parler ici, je crois qu'il faudrait que ce patrimoine soit reconnu, partagé et disponible. Et c'est ça mon objectif, c'est de faire connaître ces auteurs. Je vous... Ça va avec le temps, là.
Oui, bon, bah, ça a pris un peu de temps, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses. Personnellement, je serais un peu frustré d'une réflexion, justement, sur les conditions de mise en ligne d'archives de ce genre. Mais tu étais pris aussi par la présentation de cette archive qui est très riche, et je pense que la conversation, de toute façon, la discussion qui va s'en suivre, permettra d'approfondir, justement, certains des problèmes, qui d'ailleurs sont transversaux, parce que vous êtes sans doute sensible comme moi dans cette... Dans ce deuxième versant du colloque, on commence à retrouver des questions qui ont déjà été posées par d'autres et c'est intéressant de les confronter.
Jean-Claude. Alors un grand merci à toi, Thomas, parce qu'en effet, les Français n'intègrent pas assez, enfin, ne se montrent pas très curieux des mondes où le français est parlé, un monde. Mais je voudrais ajouter deux façons de faire quand même. Celle du colloque, par exemple, en Méchouin, Tony 4, Édouard Glissant, Raphaël Confort et Chamoiseau sont venus à Saint-Malo, au Festival des grands voyageurs. Et moi, ça m'a transcendé, c'est-à-dire que la présence physique de leur voix nous aide à être un peu plus nous-mêmes, parce que c'est des questions d'identité, qui on est, d'où on vient, où on va, qui pose, qui sont les mêmes questions pour toutes les humains. À la fin du mois, à Ouessant, il y a un salon des littératures insulaires, où il y aura beaucoup de gens de la Réunion des Caraïbes. Et puis, dans certains manuels de français en lycée, il y a des poèmes de test. En tout cas, moi, j'en étudie quelques-uns chaque année. C'est pas assez, mais justement, les listes de discussion, les sites de profs, sont dans les tomes d'un ou dans des lycées français à l'étranger, nous aident à mieux faire résonner, c'est souvent de la poésie, mais il y a aussi des récits qui sont mieux connus parce qu'il y a eu des Français qui ont été coopérants dans d'anciennes colonies françaises, en tout cas, et que les distances sont raccourcies. Et on va en parler un petit peu dans la réglette, elle nous a connu. Le pourcentage de Français dans l'Hexagone est bien plus important dans les abonnés que la population des Tom-Tom rapportée à la population métropolitaine. Donc, il y a quand même des voix, des espoirs.
Voilà, moi je suis d'accord et moi je suis au courant du festival de Ouessant. Moi je répète, bon, Glissant c'est un collègue et j'adore l'œuvre, j'ai toujours été influencé énormément par l'œuvre de Glissant. Dépeste aussi, moi je le connais personnellement et je suis officiellement son amicable contradicteur parce que j'ai fait un texte très violent contre une de ses nouvelles. Mais l'exemple de Dépeste est très intéressant et très important parce qu'il s'agit des gens comme Dépeste et Jean Métellus qui publient en France. Mais je voudrais parler, d'abord, si vous ajoutez la Martinique et la Guadeloupe ensemble, vous n'avez pas un seul quartier de Port-au-Prince. Haïti, vous avez 8 millions de personnes sur place et au moins 1 million, il y en a qui disent 2 millions de la diaspora. C'est énorme. Et je pense que ça, c'est une question surtout pour la distribution des livres. Et je crois que le Festival de l'Ouessant en fait un peu. Mais le Festival de l'Ouessant, ils font un petit truc comme ça dans le monde. Vous n'avez pas un compte rendu de ces livres qui sont publiés. Et bon, Haïti, c'est énorme. C'est grand et c'est une littérature de plus de 200 ans. Mais quand vous parlez de, bon, des dom-toms déjà, d'accord. Mais même Polynésie. Vous ne voyez pas les activités des auteurs de la Polynésie, et sans parler de Madagascar, par exemple, sans parler de... C'est-à-dire, donc, il y a des progrès, mais sur les manuels, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que les manuels, je trouve que c'est... Il y a énormément de travail à faire.
Oui, je voudrais ajouter, devant ce bilan pessimiste, que la maison d'édition Lubis Rouge, qui était basée en Guyane, puis en Martinique, est en train de fermer.
Fermer?
Ouais.
Parce que moi je connais bien Malherbe. Ouais.
J'ai vu dans les réseaux en mai ou en juin qu'il était en grande difficulté financière et j'ai très vieux.
Je ne sais pas, je travaille bien avec eux, mais c'est là je sais qu'ils ont gagné un peu d'argent. Ça peut avoir aussi avec des questions, par exemple, pour le CAPES en créole, qui il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais ils faisaient des manuels pour le CAPES et Ibis Rouge faisait un peu leur pain avec des histoires de recettes de cuisine et autres, quoi. Mais ça, c'est également la question, c'est-à-dire, moi, je vous avais vu un petit peu sur les questions des îles, mais c'est une question aussi de la distribution du livre. Ibis Rouge, le fait qu'ils sont basés en Guyane, ils ont un bureau en Guadeloupe, la difficulté des auteurs et là, des maisons d'édition, si je parle des maisons d'édition de Casablanca, de Tunis, de Abidjan, de Dakar, ils ne peuvent pas vendre leurs livres en France. C'est-à-dire, les circuits de distribution, vous allez chez l'Harmattan. Mais si vous allez à la FNAC, à la Une, etc., bon, la Une, faut comme ils disent en anglais, mais c'est des, il y a des petits rayons littérature africaine là, mais les questions de distribution sont... Moi, au printemps, même dans l'automne, je donne un cours et j'ai des livres qui sont publiés au Canada et d'autres livres qui sont publiés en France. Pour mes étudiants de commander des livres, il n'y a pas une seule librairie qui peut les fournir avec tout ce qu'ils veulent. Ce sont des progrès, parce que Ibis Rouge aurait pu être aidé par des librairies qui s'intéressent
à...
Mais de toute façon, comme je dis, je vous recommande, vous pouvez voir sur la page des éditeurs, il y a de plus en plus la possibilité de trouver les éditeurs en ligne, web pour les avoir. Il y a la librairie Toussaint Louverture à Paris, mais comme la littérature, la librairie du Québec, c'est vraiment comme la librairie Présence Africaine, c'est-à-dire c'est la marche de Paris, c'est pas là où va tout le monde.
Oui, tu as terminé, Thomas?
Ouais.
Ta réponse. Oui.
Bon, à ce propos, à propos de pas mal d'autres choses, vous parliez d'abord de votre site magnifique. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Je travaille au Conseil de la francophonie. Je sais que nous n'avons pas ce mot-là, mais nous avons les mêmes objectifs. Je voudrais juste rappeler que le mot francophonie a été créé par un géographe.
Oui, on connaît l'histoire.
D'accord. Que l'organisation francophone, vous le savez aussi, a été créée. Voulu par un Sénégalais, par un Tunisien et par un Cambodgien. Et que donc, c'est pas une colonisation colonialiste, mais je passe. Vous évoquiez l'année des cultures francophones en France. Et c'est vrai que parmi les pays francophones, la France est sûrement encore la moins sensible aux cultures francophones, même si ça bouge pas mal. Mmh. Il y a quand même pas mal de. On évoquait effectivement. Un certain nombre de festivals, il y a pas mal de choses qui se passent en région et en Paris. Et cette année des cultures francophones va être importante et elle va en effet commencer par l'édition, puisque le Salon du Livre de Paris, qui est dédié à un invité, l'invité en 2006, ça va être effectivement l'ensemble des cultures francophones. Et donc les éditeurs francophones sont présents. Cette année, elle va se dérouler entre mars et novembre, puisque c'est aussi l'anniversaire
de Saint-Gore, oui,
célébration.
Oui, merci, je suis au courant de tout ça. il y a eu des progrès. Et je crois que l'année prochaine, ce sera une bonne occasion. Comme je disais, Monsieur Donadieu de Barbe, c'est peut-être une année où les Français se découvriront finalement francophones. Parce qu'en général, quand on dit littérature francophone, pour la plupart des gens, ça évoque tout ce qui n'est pas l'Europe. Mais ça changera peut-être un peu. Pour moi, le but, c'est que les Français aussi reconnaissent le fait qu'ils sont vraiment minoritaires dans le monde francophone. Et ça, ce serait beaucoup de progrès, qu'ils reconnaissent un peu l'importance de l'Afrique francophone. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. On verra.
D'autres questions, interventions ? Moi, j'aurais une question sur l'Internet, parce qu'on a finalement plus parlé, je dirais, on a plus mis l'accent sur la littérature francophone que sur l'Internet, même si c'était là le média. Est-ce que l'Internet peut... par exemple, pourquoi est-ce que tout ça n'est pas dans un livre ?
Ce que je fais là ?
Oui.
Mais c'est-à-dire, il y a eu des manuels, il y a des manuels anciens, des manuels qui continuent à se faire, mais...
Quels sont les avantages de l'Internet pour toi par rapport à une publication papier ?
Mais je peux dire une chose, c'est qu'on est depuis longtemps sur un projet de faire un CD-ROM sur la littérature haïtienne et on voulait le faire pour le bicentenaire, on n'a pas eu le temps. Et un livre comme un CD-ROM est limité de taille, tandis qu'un site web est illimité. Et d'abord, quand on fait un livre, en général on va faire une sélection. Et on va privilégier, tandis que là, comme j'ai expliqué, il n'y a pas de hiérarchie. Les petits auteurs et les grands auteurs sont présentés de la même façon. Et pour un CD-ROM, c'est notre exemple, c'est en format fixe. Les bibliographies, là, je peux mettre à jour tout le temps. Et un livre, même si on fait le produit CD-ROM, les gens vont l'acheter, mais la semaine suivante, il y aura des choses mises à jour. Et si tout ce qu'on peut faire aux questions audio, je crois que c'est quelque chose que j'ai évoqué au début aussi, et c'est quelque chose que Anne Brunet a dit l'autre jour avec France Culture, quand elle était jeune, elle a découvert la littérature d'une certaine manière par France Culture. Les jeunes ne lisent plus, ils ne lisent plus beaucoup, et je crois que pour moi, ce qu'on ne peut pas faire avec un livre qu'on peut faire ici, c'est le côté audio. Et le côté, je travaille sur le vidéo aussi. Il y a un seul auteur pour l'instant vidéo, et il y a toute une série d'auteurs qui sont présentés sur l'émission de CUNY TV Canapé. On peut en faire un livre, mais pour moi, ce site-là, c'est plutôt une encyclopédie qui mène vers les livres. Vous allez lire un petit peu sur Georges Castras et vous allez lire un poème ou deux poèmes en disant, mais cet auteur-là m'intéresse, avec sa bibliographie, je vais acheter un livre de Georges Castras. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas en livre, mais pour moi, c'est ici, ça mène vers des livres. Je ne sais pas si ça répond.
Oui, ma question est que aussi, je donnerai la parole après Elisabeth, est-ce qu'on répond en dessous. Est-ce qu'on ne risque pas d'ajouter la marginalité de cette littérature sur laquelle tu as beaucoup insisté, marginalisation plutôt que la marginalité, à la marginalisation ou à la marginalité de l'édition sur Internet? Donc plusieurs ont dit qu'elle était encore aujourd'hui moins reconnue que l'édition sur papier.
J'espère que non, hein, parce qu'en fait, quand je vois des milliers de visites au site, et quand je vois, bon, comme j'ai évoqué des auteurs très visités, bon, ça ne m'étonne pas, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce n'est pas ajouté à la marginalisation, c'est plutôt le contraire. Quand je vois que les petits auteurs, entre guillemets, presque chacun et la page est vue au moins 100 fois par mois. Et ça veut dire que sur les 100 fois, ça peut être des accidents, que des gens tombent dessus avec des mots qui sont sur la page. Mais ça veut dire que, disons, sur les 100 fois par mois, il y a au moins 10 personnes qui ont vraiment lu sur, je sais pas, je peux pas dire le nom le plus minoritaire de ces gens. Ça va mener à sortir ces gens de la marge, je crois. Surtout ceux qui sont publiés ailleurs et pas... J'espère que non, hein.
Oui, je voulais témoigner de l'intérêt pour le site d'étudiants français non lecteurs, non littéraires, à qui j'ai fait écouter un ou deux fichiers audio. Pour ma part, j'avais cru que le fichier MP3 c'était vraiment la grande révolution, donc j'étais très étonnée de voir l'intérêt de ce site à ce sujet. Et je trouve que le site, en effet, réunit à la fois la fonction de faire découvrir de la petite édition des auteurs qu'on ne connaîtrait pas à ce sens-là, et d'autre part, de faire entendre des voix différentes, pour ma part, je n'avais absolument jamais entendu,
on avait entendu parler, on n'avait jamais pu entendre se parler. Et par exemple, les extraits qu'on a vu là.
Et il y en a beaucoup plus, non?
Ils sont une extrême surprise quoi, de lectrice. Et pour ma part, j'adore le site par ses fichiers audio. On en a parlé plusieurs fois, mais il me semble bien que Internet a là un moyen de facilitation d'accès à la lecture qui n'est pas nécessairement très complexe, mais qui, je crois, attirera de nouveaux lecteurs.
Espérons-le, oui.
Michel Lemaire, vous intervenez.
À propos de marginalité et de l'utilisation sur Internet des marginales, j'ai aimé l'intervention de M. Sky. Est-ce qu'il faut se rendre compte que maintenant, un texte publié sur Internet est plus lu qu'un texte papier, et que si ce qui compte, c'est pas simplement la reconnaissance institutionnelle, mais c'est être lu, maintenant un poème publié sur Internet sera plus lu que s'il est publié dans un recueil, dans une maison d'édition. Il faut accepter ça, et sans aucun doute que ça va se développer.
Patrick Rébola, à moins que je veuille intervenir,
je suis tout à fait d'accord avec ça, et la diffusion par Internet sera déjà supérieure à celle de l'édition. Cependant, ce n'est pas un modèle économique qui permet aux auteurs de vivre. Donc, même s'il existe une grande diffusion sur Internet, il faut encore trouver des moyens de subsistance, de survivance. Ce que tu fais est un travail merveilleux. Effectivement, Michel le disait, il n'y a peut-être pas encore assez de recherche autour de ça, de réflexion autour de ça. Mais je crois que la simple présentation des auteurs avec les articles que tu fais ou que tu fais en collaboration avec d'autres gens, c'est déjà une forme de recherche.
Et il y a la liste, on disait comme pour la question de Aimé Césaire sur la grecque, etc. Il disait qu'il n'y avait pas suffisamment de support. Là, j'essaie de mettre avec les auteurs la liste des articles critiques pour montrer qu'il y a quand même du travail sérieux fait sur ces auteurs aussi.
Michel Lemaire souhaitait intervenir à nouveau, je crois. Il y a un dialogue qui s'instaure là, mais Michel, oui.
Avec France Culture, il faudrait voir justement avec Anne Brunel, parce que moi j'ai entendu parler de Franck Etienne. La première fois, il y a 3 ans ou 3 ans et demi, dans une émission de France Culture. Et à partir de là, j'ai commandé un livre, L'oiseau schizophone, et j'étais tout à fait conquis. Donc, est-ce que Anne Brunet, est-ce que France Culture, Lina, etc.
On en a parlé, elle va peut-être essayer de reprendre des fichiers. Hein. Mais elle a déjà fait pour Franck Etienne, elle a fait des liens. Mais nous qui connaissons Haïti, si vous lisez Lettre créole, c'est un texte de Patrick Chamazot et Raphaël Confiant. Franck Etienne est considéré le père des lettres créolophones. Et c'est nous qui connaissons Haïti, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Parce que oui, c'est quand même un phénomène.
Avant cette édition d'il y a 3 ans, il n'existait absolument rien dans l'édition française.
Oui, mais parce que là, maintenant, il est publié en France. Et c'est ça que j'essaie d'insister sur le fait que Franck Etienne est publié en Haïti depuis longtemps. Et il y a beaucoup d'autres auteurs comme ça, comme j'ai dit, pour les Pouges-Loriol, Kate Limars va sortir là en France là maintenant. Marie-Célie Agnan qui est publiée au Canada. C'est-à-dire, comme on parlait de la librairie du Québec, qu'est-ce qui va? Mais c'est-à-dire, ils existent. Ils existent et on n'a pas besoin d'être publié à Paris pour être un auteur de première qualité.
Je vais redonner la parole à Michel.
Oui, vous voulez réagir à la phrase de M. Nicolas que Internet n'est pas un médium qui permet aux auteurs de vivre sur leur publication, comme si le livre était un médium qui permet aux auteurs de vivre sur leur publication. Un poème, ça n'a même été dans ses livres. Les livres vont à moitié vivre leur éditeur, mais jamais leurs auteurs.
Dans toutes les plus belles excuses pour être un éditeur, si vous avez des questions d'intendance sur lesquelles je ne reviens pas. Donc, dans la discussion, je vais peut-être faire la même remarque que vous, c'est-à-dire que un auteur chez un petit éditeur ne n'a pas le droit d'auteur, vraiment tellement minuscule, c'est même pas la peine de parler. Mais je pensais à une solution, je ne sais pas si vous avez été expérimenté ou si c'est pour vous. J'ai entendu parler d'une possibilité de print on demand, généralement l'expression en anglais, qui permet de faire des éditions à partir de textes numériques. Donc est-ce que ça ne serait pas un moyen finalement pour que ce soit aussi sur les bibliothèques, des universités au moins, puis des gens qui s'y intéressent par la suite, et par ce biais-là, est-ce qu'il y aurait moyen de donner un petit pourcentage à l'auteur sur la pression
juridique. Il y a une machine différente, il y a une machine spéciale
différente. Moi, je ne suis pas éditeur. De toute façon, il y a manuscrit.com aussi, des gens qui peuvent faire ça. Mais bon, ça, c'est des questions d'édition.
Alors, je voudrais répondre à la fois à M. Le Maire et à François Fleury. D'abord à M. Le Maire, je pense que sur Internet, les maisons d'édition ont essayé de vendre, parce que l'Internet, soit en fichier numérique, soit en impression à la langue, je suis le format arrivé à peine 1% des ventes des mêmes livres. D'édition traditionnelle, alors que le canal de fusion de la vente de l'information, alors que la maison d'édition question avait une presse considérable, c'est très étonnant à quel point le fait d'acheter en ligne était entre 98 et 2003, je crois, 2002. Était d'acheter des choses en ligne était considéré comme totalement aberrant par les Français, et les livres, moi j'ai connu des auteurs qui pouvaient à peine s'acheter un papier net avec un grand auteur sur Zéro Heure, alors que les mêmes auteurs étant publiés par Gallimard arrivent à avoir quand même quelques milliers de francs, d'euros, donc ça n'a absolument rien à voir. Je ne pense pas que les auteurs puissent vivre de leurs livres avec Internet, même avec l'impression à la demande. En revanche, l'impression à la demande existe sur des maisons d'édition en ligne qui sont malheureusement beaucoup des comptes d'auteurs qui se masquent derrière manuscrit.com est un compte d'auteur, etc. Enfin,
Michel Le Maire.
Que la vente de textes électroniques soit encore limitée en France, c'est bien fait son objet, mais ça se développe énormément.
Je pense que ça va.
Mais un texte numérique, il va falloir finir par admettre qu'il est fait pour être lu à l'écran. C'est tellement sujet. L'impression à la demande, ou alors peut-être vous demandez que le livre soit imprimé pour vous et on vous l'envoie, ou alors vous l'achetez et vous l'imprimez, ça ne fait vivre que les marchands d'encre et les marchands papier. Le texte numérique est destiné à être vu sur un écran.
Pour rester dans ce. Je pense que pour le livre vendu en livre électronique vendu en ligne, les éditeurs font que ça ne marche pas parce que le prix, si vous prenez l'Harmattan, moi j'achèterais par dizaines des livres chez l'Harmattan en ligne, parce que je préfère les lire en ligne. Seulement ils sont vendus quasiment au même prix que le papier. Donc ça n'a aucun sens. Et vous voulez acheter un livre en ligne, donc ne coûte rien à l'éditeur, et vous le payez 24 euros au lieu de 25 euros, donc ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire que l'éditeur ne veut pas que ça se vende en ligne. Les éditeurs en général. Moi je connais Denis Prien, je connais bien sa position, et tous les éditeurs sont comme ça. S'ils voulaient vendre en ligne, ils vendraient des livres à 4 euros. Et là, il les vendrait. Je peux vous assurer qu'il les vendrait beaucoup. Seulement, ça remettrait en question.
Non, enfin, chez Zéro Heure, les livres en ligne étaient vendus à un tiers du prix que nous vendons pour la version papier. Donc, c'était vraiment pas du tout le tarif. Et malgré ça, on vendait même pas une dizaine d'exemplaires par an.
Excusez-moi, mais ce que je veux dire, c'est que là, je parle, moi, de livres qui sont plutôt des livres de recherche, il me semble. C'est-à-dire que les ouvrages de recherche, c'est très intéressant de les avoir sur son ordinateur. Et là, on pourrait les acheter, mais ils sont à des prix tels que c'est pas possible. On va pas mettre 24 euros pour acheter un livre en ligne. C'est un peu la même chose, d'ailleurs, pour le disque, où on vend sur Internet de la musique pratiquement au même prix que la musique en CD dans les magasins.
Oui, alors qu'il
n'y
a
donc,
pas
de manière
de diffusion.
Voilà, alors donc là, il y a une volonté commerciale plus qu'autre chose, je pense. Enfin, je me trompe peut-être. À mon avis, ça ne vient pas du public, ça vient davantage de... Vous avez raison pour les chefs, je comprends, de m'en parler. Et là, je crois que chez l'Harmattan, c'est clair que les livres de l'Harmattan
se vendrait très bien sur Angleterre, parce que ce sont des livres qui intéressent un public assez spécialisé, qui sont très intéressants, mais au prix où ils sont, ils ne peuvent pas se vendre.
Oui, Michel Lemaire,
tu veux dire. Tandis que le livre électronique se développe aux États-Unis, parce qu'un best-seller, une nouveauté, se vend 10 euros au moment où il sort, en même temps que le livre papier, parce qu'il sait très bien que le livre électronique ne va pas concurrencer le livre papier. Et puis, donc, il va se vendre dans 10 euros au moment où il sort, et deux ans après, il va se vendre 5 euros ou 3 euros.
Pour s'inscrire, ça a pris la parole plusieurs fois. Elle n'était pas là lors de notre soirée, donc elle ne s'est pas présentée. Je voudrais le faire parce que elle a fait comprendre et puis elle a parlé à beaucoup d'entre vous. Elle a été éditrice aux éditions Zeroheure.com, que beaucoup d'entre vous connaissent, et ce qui explique un peu parfois son pessimisme sur l'édition électronique, parce que c'était une très belle entreprise d'édition en ligne qui s'était donnée vraiment toutes les chances, à la fois en qualité, en financier également, parce qu'il y a une véritable entreprise d'édition et qui a fermé sa porte il y a un an maintenant, à peu près, même plus, oui. Il y a près de deux ans. Alors, on peut toujours supposer ou dire que c'était trop tôt par rapport à une certaine maturité du marché qu'on voit peut-être se manifester dans d'autres pays, mais elle a un regard très professionnel sur cette grande aventure, qui restera historiquement une grande aventure de l'édition électronique, et c'est de ce point de vue-là qu'elle parle. Patrick Rébollard avait demandé la parole ensuite, mais je te donne la parole après, oui.
Patrick, à propos de ça, bon, c'est vraiment dommage que Constance n'ait pas pu continuer son travail. Je crois qu'il y a vraiment une situation de monopole des éditeurs qui, dans l'ensemble, ne souhaitent pas passer à une nouvelle technologie. On l'a vu avec Anne Brunel qui nous a dit « Pour que la radio devienne une radio numérique, il faut tout casser, il faut changer tous les métiers. » Et là, il y a une vraie résistance. Donc, effectivement, ça se développe. Mais pour revenir à Thomas et le remettre dans la discussion, ce qu'il fait est une sorte de pointe qui s'avance dans le milieu de l'édition, et c'est beaucoup plus un problème politique qu'un problème littéraire. Donc évidemment, on défend la littérature, on la promeut, on la décrit, on la fait lire, mais il faut bien être conscient que c'est un combat politique contre des ennemis qui souhaitent que quelque chose n'avance pas. Et nous sommes là tous avec la nécessité de faire des liens, d'aider à faire des pages, y compris sur la littérature en France, parce que, à mon avis, la francophonie englobe la France et non pas la France et la francophonie à côté. Et quand les Français commenceront à comprendre que la France fait partie de la francophonie, là, il y aura un pas. Et tout ça est, pour moi, dans le même paquet, politique à promouvoir. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais déjà, nous, sur Internet, on a des liens différents, mais c'est-à-dire, c'est une question précise pour... Je prends l'exemple du Monde. Il faut que ça commence quelque part. Il y a des librairies. La question, où est-ce qu'ils vont avoir de la taille sur les rayons pour des textes publiés en Tunisie ou même en France provinciale, ou la grande presse? Pourquoi la grande presse? C'est-à-dire, il y a des très bons sites à voir et lire, toutes sortes de sites, même lire, qui couvrent cette littérature. Mais pourquoi pas la grande presse Figaro, Libé, Le Monde? Pourquoi eux, Josiane Savignon m'avait répondu, on avait une fois parlé d'un livre publié comme ça, mais les lecteurs se sont plaints parce qu'ils n'ont pas pu trouver le livre en librairie. Alors, comment est-ce qu'on avance quand entre la presse, entre les librairies, il faut une initiative, je ne sais pas, auprès de OPELF, francophonie, je ne sais pas. Il y a des enjeux très grands qui protègent l'édition de Saint-Germain-des-Prés. Et je crois qu'on doit élargir un petit peu ça.
Il faudrait même casser ça.